Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Portrait. Et le portrait d'aujourd'hui est un peu à part de notre galerie. À part car notre personnage du jour est un académicien. Nous allons en effet nous intéresser à Christian Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. Mais ce portrait est à part aussi et surtout par les documents qu'il présente. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, né en 1721, Malesherbes devient président de la Cour des Aides en 1750. Directeur de la librairie la même année. En 1770-71, il s'oppose à la suppression des parlements ordonnés par Maupeou. Et les remontrances qu'il adresse alors à Louis XV demeurent célèbres. Elles le rendirent très populaire, mais lui valurent aussi l'exil sur ses terres. Sous Louis XVI, Malesherbes reprend sa charge et devient en 1775 secrétaire d'État à la Maison du Roi. Les délisions sont rapides pour lui. Il démissionne moins d'un an après. Mais on le supplie pourtant de revenir au pouvoir en 1787. Il devient alors ministre d'État, sans portefeuille, mais surtout sans pouvoir. Il donne rapidement sa démission et remet au souverain plusieurs mémoires, restés donc inédits à ce jour. Dans ses mémoires, Malesherbes développe un large programme de réformes touchant à la fiscalité, à la justice, aux libertés religieuses ou autres. Il va jusqu'à réclamer à Louis XVI une monarchie constitutionnelle pour la France. On l'a compris, ces manuscrits sont d'un intérêt fondamental. Le marquis de Rosambeau, actuel propriétaire du fonds Lamoignon, a autorisé Valéry André, notre invité d'aujourd'hui, à présenter au public ses mémoires. Ils sont publiés aux éditions Talendier, sous le titre évocateur « Malesherbes, à Louis XVI ou les avertissements de Cassandre ». Valéry André, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro de Canal Académie.
Merci de m'avoir invité.
Je précise à nos auditeurs que vous êtes maître de recherche au FNRS, l'équivalent de notre CNRS français, et vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous faites d'ailleurs l'aller-retour de Bruxelles pour nous aujourd'hui, je vous en remercie. Mais revenons-en donc aux mémoires de Malesherbes. J'imagine que pour l'historienne que vous êtes, c'était extraordinaire de présenter des documents d'une telle importance, restés inédits.
C'était une expérience terriblement exaltante, angoissante aussi, parce qu'on se retrouve face à des textes qui n'ont jamais été publiés, des textes qui pourtant, du vivant de leur auteur, avaient circulé dans des copies qui avaient été communiquées à plusieurs personnages importants à l'époque. Et ces textes sont actuellement donc conservés dans le fonds des archives de Rosambeau. Il y en a certainement encore d'autres copies qui existent de par le monde, mais il est très difficile de connaître l'état des archives privées. En tout cas, à ce jour, ces copies sont les seules que nous ayons à notre disposition, les seules dont nous savons qu'elles ont une existence tangible, puisque c'est de ces textes-là que je suis partie pour établir l'édition critique. Des textes qui avaient longtemps disparu, puisqu'ils avaient été saisis avec l'ensemble des papiers de Malesherbes au moment où il a été arrêté en compagnie de sa famille, avant son exécution. Et pendant de longues années, on n'a jamais su ce qu'étaient devenus ces textes, ces manuscrits. Alors, les historiens savaient qu'ils existaient dans le fond Lamoignon, mais les archives étant assez difficiles d'accès, ils n'avaient pas encore été publiés à ce jour.
Mais ces mémoires ont donc été remis au roi en 1787 et 1788. Les copies du roi, que sont-elles devenues ?
On n'en sait rien. On n'en sait rien et on a finalement la réaction de Louis XVI par procuration, puisque c'est Malesherbes lui-même qui fait allusion à plusieurs reprises dans les mémoires eux-mêmes, et en tout cas dans les avant-propos qui leur servent en quelque sorte de préface, et puis également dans les conversations qu'il a pu avoir avec certains de ses proches. Je pense en particulier à quelqu'un comme Pierre-Louis Lacretelle, qui a été un de ses, entre guillemets, secrétaires, ou en tout cas collaborateurs proches. Nous savons que Malesherbes a remis ces textes au roi, que le roi les aurait lus ou en tout cas consultés, qu'en tout cas il n'en a pas fait grand cas. La formule de Malesherbes est d'ailleurs éloquente, il le dit à plusieurs reprises à propos des deux mémoires les plus importants qu'on publie ici. Le roi reçut le manuscrit avec cet air de bonté qui lui est familier et il ne m'en a plus jamais parlé depuis. Donc c'était une frustration énorme pour ce serviteur de l'État de savoir que ses avertissements, en effet, allaient s'avérer des avertissements de Cassandre. Vous savez, autour de Malesherbes, il y a un peu une espèce d'hagiographie qui s'est construite. C'est le ministre martyr qui s'est sacrifié pour son roi, parce que justement, dans la présentation que vous faisiez, il y a un élément quand même important, c'est qu'il s'est proposé aussi pour devenir avocat de Louis XVI. Et évidemment, ça n'a pas contribué à lui sauver la vie sous la Révolution. Donc, en dépit de finalement de ce regret de ne pas avoir été écouté, jusqu'au bout, Malesherbes a été un serviteur de l'État au sens noble du terme. Et il est clair que tout le XIXe siècle, qui, comme vous le savez, est un siècle extrêmement polémique sur le plan idéologique et politique par rapport à la Révolution, par rapport à la Terreur, va avoir une tendance à sanctifier Malesherbes, qui n'avait déjà pas besoin de ça. Il était déjà suffisamment respectable sans ses discours. Mais clairement, nous avons, sous la Restauration, des témoignages que je n'ose pas donner comme avérés, puisqu'il s'agit véritablement d'un récit post-mortem. Il semblerait donc, je mets des guillemets, même si l'épisode paraît probable, que lors d'une de ses visites au temple, Malesherbes ait eu une conversation particulière avec Louis XVI concernant ses mémoires, le roi comprenant qu'il avait reçu à temps des avertissements qu'il aurait sans doute dû prendre en considération et l'aurait demandé à Malesherbes de lui redonner une copie de ses mémoires pour pouvoir les lire en prison. Malesherbes aurait hésité, sachant évidemment que le roi allait être sans doute choqué par la lecture qu'il allait en faire. Et lors d'une visite ultérieure, le roi serait tombé dans ses bras en pleurs en lui disant qu'il regrettait de ne pas avoir tenu compte de ses admonestations. Alors bon, l'histoire vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas peu crédible lorsqu'on connaît les relations, j'ai presque envie de dire d'amitié, qui s'étaient liées entre Louis XVI et Malesherbes à la fin de sa vie. Maintenant, elle vient peut-être compléter une image d'Épinal hagiographique.
Alors pour en revenir à ses mémoires, vous disiez à l'instant qu'ils étaient conservés finalement aux Archives nationales. Enfin, ils sont conservés...
La copie est conservée aux Archives nationales puisque les originaux sont toujours au château de Rosambeau. Et les Archives nationales possèdent une copie microformée de l'ensemble du fond du château de Rosambeau. Et c'est ce fond-là qui m'a été ouvert, mais qui est l'exacte reproduction des documents papier qui sont conservés à Rosambeau et dont on comprend évidemment qu'ils soient mis à l'écart pour des fins de conservation. Il n'y a rien d'autre que ce qui se trouve aux Archives nationales dans l'état actuel des connaissances, en tout cas.
Alors avant de nous pencher à proprement parler sur les mémoires remis au roi, je voudrais que nous revenions sur le parcours de Malesherbes. Il est donc fils du chancelier de Lamoignon. Il entre dans la magistrature à 23 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeune magistrat de 23 ans ?
Fort peu de choses sur le plan biographique. Malesherbes est un petit peu le désespoir des biographes. C'est un homme qui est d'une grande pudeur, d'une grande discrétion, qui parle très peu de lui-même. Ce que nous savons, ce sont des témoignages extérieurs ou également des éléments, je dirais, plus factuels concernant sa formation et son accession à la fois à la magistrature et puis aux autres charges que vous avez rappelées tout à l'heure. C'est un jeune homme qui a eu une éducation extrêmement stricte de la part de son père. Il a perdu sa mère très jeune. Et le chancelier de Lamoignon, pour être un homme extrêmement intelligent, humaniste, a une conception extrêmement rigoureuse de l'éducation. On possède une lettre de lui qu'il adresse à son fils et qui aujourd'hui, lorsque nous connaissons le personnage tel qu'il est devenu, nous paraît déroutante, tant elle paraît sévère par rapport au caractère du jeune homme. Le chancelier lui reproche son manque de dévotion. Alors ça, c'est clair que l'absence de ferveur religieuse, c'est quelque chose que Malesherbes continuera à manifester, mais pas de manière du tout polémique. Il est très difficile de connaître ses opinions en matière de religion. Sans doute était-il déiste, en tout cas anticlérical au sens premier du terme. Il est opposé, si vous voulez, à une ingérence des affaires de l'Église dans l'État. C'est quelqu'un qui va défendre très tôt une conception de la laïcité au sens moderne du terme. Ça me paraît extrêmement important. Ce sont des choses qui apparaissent clairement dans ses mémoires, sans pour autant être anti-religieux. Il lui reproche également son goût pour la lecture et pour la littérature, qui l'éloigne du droit chemin. Et il est vrai que Malesherbes va, dès son plus jeune âge, manifester un goût très particulier pour la littérature et pour les hommes de lettres, pour tous ceux qu'il a envie de protéger, et il aura l'occasion de le faire lorsqu'il aura la casquette, j'ai envie de dire, de directeur de la librairie en succession de son père. Il est surtout très impressionné par l'écriture, par la littérature. Il ne faut pas oublier que Malesherbes est, comme beaucoup de ses contemporains célèbres, des Lumières, un élève des jésuites de Louis le Grand, où il a suivi les enseignements de certains des professeurs de Voltaire, par exemple, le célèbre Père Poré. Il va également connaître l'enseignement d'un homme particulièrement bouillant et intelligent, qui est l'abbé Pucelle, qui va lui aussi l'inciter à la lecture et à la lecture critique. Lecture du théâtre, bien sûr, les jésuites sont réputés pour avoir favorisé cet enseignement du théâtre, et le père Lamoignon lui reproche aussi donc ce goût démesuré pour les fadaises en littérature.
Goût de la littérature, mais pas seulement, il s'avère un passionné de botanique.
Oui, très rapidement, Malesherbes va s'intéresser à la botanique qui restera jusqu'à la fin de sa vie une réelle passion. Il va composer des textes qui seront des observations sur des ouvrages contemporains, je pense en particulier aux ouvrages de Buffon, dont il va devenir d'ailleurs le collègue à l'Académie des sciences.
Tout en étant très critique.
Tout en étant très critique. Et il refusera d'ailleurs de son vivant de publier ses observations. C'est un homme qui est extrêmement respectueux et qui parfois, il faut bien le dire, préfère quand même ménager la chèvre et le chou. Mais il ne se sent pas en tout cas destiné à une carrière de polémiste. Et il avait sans doute raison en ce sens. Cette passion pour la botanique va aussi favoriser une amitié très profonde que nous connaissons à Malesherbes, qui est celle qu'il entretiendra avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qu'il va protéger en étant directeur de la librairie. Jean-Jacques Rousseau avec qui il perçoit une sorte d'intimité, dont il perçoit les écorchures. Il a vite fait de comprendre que la dérive paranoïaque de Jean-Jacques est sans doute due à une hypersensibilité qui lui procure une véritable souffrance. Les lettres entre les deux hommes ont été republiées, elles, dans l'édition des œuvres de Rousseau, bien sûr, mais aussi dans un volume à part qui a déjà quelques années. Et on peut suivre cette relation amicale entre les deux hommes. Et clairement, la botanique, avec tout ce qu'elle représente aussi, ce n'est pas simplement le goût des plantes ou de l'érudition. La botanique fait partie, pour Malesherbes comme pour Rousseau d'ailleurs, d'une espèce de démarche intellectuelle beaucoup plus accomplie. Ça s'accompagne par des promenades, par des rêveries, par des réflexions aussi sur l'art, sur l'agronomie, sur la manière de parvenir à améliorer l'agriculture. Et d'ailleurs, Malesherbes a laissé un nombre considérable de documents relatifs à l'agriculture.
Donc, vous y faisiez allusion tout à l'heure, à l'instant, il est élu à l'Académie des sciences. 1750 est aussi la date à laquelle il prend la direction de la librairie de France. Vous avez fait allusion à son rôle à ce poste. On peut peut-être juste rappeler précisément quel a été ses grands, enfin, dans quelle direction il a voulu guider, enfin, quel poste il a occupé à ce moment-là.
Oui, alors il n'est pas inutile sans doute pour un lecteur contemporain de rappeler ce que représente la librairie sous l'Ancien Régime. Il s'agit à proprement parler d'une sorte de ministère du livre, de police du livre. Vous savez que la France de l'Ancien Régime est soumise à un régime de censure extrêmement puissant. On ne peut pas publier que ce soit des journaux, des textes ou quelque chose que ce soit sans avoir reçu une approbation, un privilège ou une permission tacite. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Et donc au sommet de la hiérarchie de cette police du livre, eh bien, il y a Malesherbes. Malesherbes qui succède à ce poste à son père, le chancelier Lamoignon. Alors c'est une position un petit peu délicate pour un homme qui est terriblement épris de liberté d'imprimer aussi. Et là, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il est aussi l'auteur de Mémoires sur la liberté de la presse, qui montre combien il estime que la liberté d'expression par l'imprimerie, par la voie du document écrit, est fondamentale. Donc il se trouve, si vous voulez, enclin par nature et par aspiration à permettre la circulation de l'écrit. En même temps, il est à un poste où il est obligatoire d'exercer un contrôle sur les ouvrages parus. Il a donc à ses ordres toute une série de censeurs qui sont censés examiner les ouvrages. Et Malesherbes lui-même est parfois saisi personnellement par les auteurs ou par les plaignants dans des affaires tout à fait particulières. On a ainsi, par exemple, toute une série de lettres qui ont été échangées entre Malesherbes et Voltaire. Voltaire, qui, vous le savez, a eu quand même maille à partir plus d'une fois avec le régime de la censure. Ce qui a sans doute le plus marqué, et que nous retenons aujourd'hui évidemment la carrière de Malesherbes en tant que directeur de la librairie de France, c'est son rôle actif dans ce qu'il est convenu d'appeler le sauvetage de l'encyclopédie. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce monument incroyable du savoir qui a mis des années à se construire. L'encyclopédie, qui est une entreprise commerciale considérable au XVIIIe siècle, ça, on ne s'en rend pas vraiment compte aujourd'hui, puisque nous n'avons plus la même vision du marché du livre. Mais cette histoire-là, l'encyclopédie, elle implique un nombre considérable de gens, d'investisseurs, des libraires, des souscripteurs. Et nous tombons dans un climat où la France est à ce moment-là divisée dans des guerres, des querelles plutôt religieuses extrêmement fortes, qui jésuites, jansénistes, et l'encyclopédie devient la cible très vite des attaques des jésuites, qui sont encore à l'époque un pouvoir extrêmement influent. Il y aura donc toute une série d'attaques en règle contre l'entreprise, avec, j'ai envie de dire, des coups de frein et des moments d'accélération, où Diderot et d'Alembert d'abord, puis Diderot seul, puisque d'Alembert quittera le navire, devra mener à bien cette entreprise. Il se fait que l'encyclopédie se trouve interdite à un moment donné. On déclare l'ouvrage dangereux, on le condamne. On condamne dès lors les planches et les documents à être détruits. Malesherbes se trouve là dans une position extrêmement difficile. D'un côté, il est l'ami des philosophes, l'ami des auteurs. Il est surtout conscient de la somme considérable de savoir et d'émancipation par la pensée et par l'écrit que constitue l'encyclopédie. D'un autre côté, il doit interdire le texte. Et il va avoir cette réaction tout à fait fantastique de proposer à Diderot de venir cacher les manuscrits chez lui en lui disant ici on ne viendra pas les chercher.
Malesherbes va être obligé de quitter ses fonctions en 1763 à la suite du départ de son père. Il sera remplacé par le chancelier de Maupoux. 1770 et 1771 sont des années difficiles pour Malesherbes. Il va, sur le plan personnel, c'est l'année du suicide de son épouse.
Tout à fait.
Et c'est l'année aussi où il va marquer son opposition à la politique justement imposée par le chancelier de Maupoux. Revenons brièvement peut-être sur ces deux épisodes.
Alors en effet, les années 1770-1771 constituent à la fois un tournant dans sa carrière et un moment particulièrement douloureux dans sa vie personnelle. Malesherbes, vous venez de le rappeler, a suivi son père dans sa disgrâce au moment où il a été limogé. Il est en 1770 toujours à la tête de la Cour des Aides, ce ministère qui est chargé de régler les différends concernant les impôts. C'est un peu difficile de résumer ses fonctions si brièvement. Il se fait qu'il y a donc ce qu'on appelle le coup d'État de Maupoux, qui est un acte d'autorité extrêmement fort. Et Malesherbes, moins en tant que citoyen qu'en tant que président de la Cour des Aides, va, comme à l'accoutumée, rédiger des remontrances qui sont donc des critiques qu'il formule à l'égard du pouvoir. À la même époque, vous venez de le rappeler, sa femme, dont Malesherbes dira qu'elle souffrait déjà depuis un certain temps de mélancolie, c'est un terme courant au XVIIIe siècle pour désigner toute une série de pathologies, notamment de ce qu'on appellerait aujourd'hui de dépression. On ne sait pas exactement de quoi souffrait la femme de Malesherbes, il reste extrêmement discret sur le sujet. Je vous l'ai dit, c'est un homme qui se livre très peu. Nous avons juste une lettre à Rousseau qui fait état de cela. En effet, donc, la femme de Malesherbes s'est suicidée avec un fusil de chasse dans les bois de sa propriété. C'est un gros coup pour lui, qui reste à ce moment-là père de deux filles auxquelles il est extrêmement attaché, auxquelles il restera attaché toute sa vie d'ailleurs. Périra d'ailleurs sur l'échafaud avec l'une d'entre elles, sa préférée.
Qui avait épousé, juste pour la parenthèse, le frère de François-René de Chateaubriand.
Ah, sa fille. Donc la petite fille de Malesherbes avait épousé le frère de Chateaubriand. Oui, c'est une généalogie assez complexe que celle des Lamoignons de Malesherbes. En tout cas, il est apparenté à des tout grands noms à la fois de la politique, puisque il est apparenté au Tocqueville, l'historien fameux, et aussi évidemment au Chateaubriand, au Le Pelletier de Rosambeau également, qui sont des gens extrêmement importants dans l'histoire de la magistrature française. Et vous voyez, c'est une famille qui a vraiment des multiples ramifications.
Revenons aux remontrances qu'il adresse à Louis XV, donc en 1771, où il critique ouvertement la politique donc dureté
despotique, le terme,
appliquée par Maupoux vis-à-vis des parlements. Ces critiques lui valent l'exil et vous montrez là un Malesherbes finalement assez heureux sur ses terres, qui se consacre à ses passions, qui n'arrête pas de travailler.
Oui, c'est un fou de travail.
Et donc finalement en 1774, Louis XV meurt et je vous propose de continuer le parcours de Malesherbes après une courte pause. Thank you. Madame, Monsieur, vous êtes toujours à l'écoute de Canal Académie. Nous évoquons Malesherbes avec Valérie André, qui nous présente Malesherbes à Louis XVI ou les avertissements de Cassandre, publiés aux éditions Talendier. Donc nous avons quitté Malesherbes en exil sous Louis XV. Louis XV est mort en 1774. L'avènement de Louis XVI est très prometteur. Des hommes nouveaux arrivent au pouvoir, dont Turgot, proche de Malesherbes. Donc Malesherbes est aussitôt pressenti pour occuper la justice, pour être garde des Sceaux. Ça ne va pas se passer comme ça. Que demande Malesherbes pour revenir au pouvoir ?
En réalité, si je le disais en commençant cette interview, Malesherbes est un serviteur de l'État, il le restera jusqu'au bout. C'est un homme qui n'a pas l'attrait du pouvoir. Ce qu'il veut faire, c'est servir son pays et pas forcément occuper des postes en pleine lumière ou des postes de décision. Lorsque Turgot et Maurepas lui demandent d'accepter les Sceaux, ce qui, sous l'Ancien Régime, représente un ministère considérable, c'est vraiment le ministère de la Justice, Malesherbes refuse. Il refuse pour une raison très claire, même si nous savons qu'elle est certainement augmentée par son absence de vocation par rapport au ministère en général. On l'a rappelé en commençant, Malesherbes a fait toute sa carrière dans la magistrature, il est issu d'une grande lignée de magistrats, il était avocat à 23 ans, on l'a vu, président de la Cour des Aides. Et en tant que président de la Cour des Aides, nous venons de le rappeler, il a toujours été une figure de l'opposition. Figure de l'opposition par rapport au despotisme, par rapport à un autoritarisme royal qu'il estime hors d'âge, j'ai envie de dire, et qui ne correspond pas au respect des libertés de chacun et des libertés des citoyens. Il est connu dans le public, même si nous n'avons pas à l'époque les médias qu'on possède aujourd'hui. Malesherbes est une figure très connue de son temps par justement le fait de ces remontrances dont nous avons parlé et qui ont circulé partout et parfois même de manière clandestine, ce qui a évidemment accru leur popularité. Il lui paraît totalement à la fois indécent et surtout illusoire d'occuper une place où il reviendrait au fond de l'autre côté du pouvoir, passant de l'opposition au premier rang et étant sans doute aussi contraint d'exercer une politique qui serait contraire à ses opinions intellectuelles et politiques. Il sait aussi qu'il n'aura, aux yeux de ses collègues, de ses anciens collègues, qu'il n'aura aucune influence. Comment pourrait-il devenir le « patron » entre guillemets de ces magistrats qu'il a représenté pendant si longtemps lorsqu'il était à la tête de la Cour des Aides. Donc ça, pour lui, il n'en est pas question et il refusera toujours d'accéder à ce poste.
Il revient pourtant, donc, en 1775, mais contre toute attente, en tant que président de la Cour des Aides, justement.
Oui, il revient en tant que président de la Cour des Aides qui se trouve rétabli dans ses fonctions, mais il ne restera pas très longtemps à ce poste-là, puisque, vous mentionniez tout à l'heure l'amitié qui le lie à Turgot, c'est un de ses proches, va beaucoup insister pour le ravoir avec lui dans l'équipe gouvernementale. Et puis surtout, à bourre d'arguments, les ministres en place vont faire appel à l'autorité suprême, c'est-à-dire à Louis XVI lui-même. Et Malesherbes recevra une lettre du roi, non pas lui intimant l'ordre d'accepter, mais en tout cas insistant fortement pour qu'il accepte de revenir dans l'équipe ministérielle, avec cette fois un titre qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui pour le français contemporain, mais qui à l'époque constituait un ministère d'importance, qui était le ministère de la Maison du Roi. Ministère de la Maison du Roi, qui avait en charge toute une série de choses, notamment la ville de Paris, la question des prisons, de la police, des droits de douane. Enfin, il y a là énormément d'éléments qui sont en charge du ministère de la Maison du Roi. Et Malesherbes acceptera, il n'y restera pas très longtemps, puisqu'en effet, il était visiblement destiné à ne jamais être écouté. Mais le temps qu'il a passé dans ce ministère a suffi à montrer quelles étaient les lignes fortes de sa politique, lignes fortes que nous retrouverons dans les mémoires que l'on vient de publier.
1775 est aussi son année de l'élection à l'Académie française. Nous sommes au micro de Canal Académie. Je voudrais qu'on en dise deux mots, parce que cette élection a été très populaire.
Elle a été très populaire dans la mesure où, je vous l'ai dit, Malesherbes était quelqu'un qui était à la fois très populaire au niveau du peuple en général, mais également auprès des philosophes, auprès de l'élite intellectuelle, auprès de ceux qui étaient déjà à l'Académie pour certains, qui allaient encore piaffer longtemps devant la porte pour d'autres, et qui le voient arriver avec bonheur. Car en effet, Pour l'opinion éclairée, Malesherbes représente véritablement l'homme des Lumières dans tout ce qu'il peut recouvrir de noble. C'est l'humaniste, le philosophe, mais également l'homme qui est conscient des réalités quotidiennes de son pays. Et le discours qu'il va prononcer lors de sa réception à l'Académie est un texte qui mérite lui aussi d'être réédité, tant il s'éloigne, je dirais, de l'académisme stricto sensu des discours de réception. On voit déjà là l'homme engagé qui fait part à la fois avec modestie de sa fierté d'enfin appartenir à ce corps, dont il ne se sent pas forcément digne en tant qu'auteur, mais nous le voyons exprimer toute sa passion pour la littérature, pour la philosophie, et puis surtout réfléchir sur la place de l'académie, des académies, dans un pays comme la France.
Donc 1775, Malesherbes est élu à l'Académie française, il est donc secrétaire d'État à la Maison du Roi. Dès mai 1776, il démissionne. Pourquoi ?
Il démissionne parce que, une fois de plus, on n'a pas voulu écouter les réformes qu'il propose. Elles ont même été refusées en bloc. Malesherbes est conscient, dès ce premier ministère, des réformes considérables qu'il faut apporter si on veut éviter que le pays ne sombre dans la faillite et dans l'anarchie. Alors, les points essentiels qu'il va développer, c'est la nécessité de diminuer les dépenses publiques. Et là, il reviendra dans son second ministère, donnant lieu à l'un des mémoires qui sont publiés ici, donc son mémoire sur la nécessité de diminuer les dépenses, qui s'adresse très clairement aux grands, à la cour, aux privilégiés, qu'il essaie de convaincre d'être moins dispendieux à l'heure où la France se bat dans une crise financière économique très grave. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une période de disette. Nous sommes en pleine période de guerre des farines, qui va d'ailleurs valoir à Turgot sa disgrâce. Turgot démissionnera quelques jours à peine après Malesherbes. Il va également s'en prendre au système judiciaire. Et ça, c'est un élément très très important pour moi de la réflexion de Malesherbes, extrêmement actuel également. Et ça, je voudrais vraiment insister pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que ces textes ne sont pas simplement une réflexion sur une France passée à laquelle on ne reviendra plus. Moi, ce qui m'a frappée en tant que lectrice, en tant que philologue, c'est l'actualité du propos. L'ensemble des points qu'il va développer, nous pourrions, mutatis mutandis, les adapter à la situation de la France et de l'Europe de 2010. Et ça, on aura sans doute l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Réforme donc de la justice, il s'attaque en particulier à une tradition dans le monde judiciaire français qui est l'usage des lettres de cachet, qu'il estime totalement arbitraire et auquel il s'en prendra encore plus violemment dans un autre mémoire qui lui-même traite exclusivement de la question. Il va également visiter les prisons, se rendre compte des abus du système carcéral, même si un ouvrage comme « Les délits, les peines » de Beccaria a déjà fait beaucoup d'émules, même si on connaît les combats de Voltaire en faveur des droits de l'homme, Malesherbes se rend compte que la France des Lumières, ce n'est pas dans les cachots de la Bastille ou de Bicêtre qu'on va la retrouver. Au contraire, pour lui, ce système-là est infamant, n'est pas digne de l'humanité. Il va donc avertir le roi de tout ça et, une fois encore, ses avertissements seront lettres mortes.
Donc, à nouveau, il quitte le pouvoir. Et pourtant, donc en 1787, on le rappelle, il était déjà venu à reculons, si j'ose dire, aux affaires en 1775. C'est encore plus à reculons qu'il reviendra. C'est ce que nous allons voir après une courte pause. Nous sommes toujours en compagnie de Valérie André, venue nous présenter les mémoires inédites de Malesherbes. Nous venons de rappeler le parcours de Malesherbes. Voyons maintenant le contenu de ces mémoires inédites. Donc, Malesherbes arrive au pouvoir, enfin, pour la deuxième fois, le second ministère. Le premier mémoire remis au roi par Malesherbes en 1787 a pour titre « Mémoire présentée au roi en 1787 sur la résistance apportée par le Parlement à l'enregistrement des édits » et entre parenthèses « Mémoire relatif à la nécessaire diminution des dépenses ». Pouvez-vous, Valérie André, nous rappeler le contexte donc politique et économique de la France en 1787 ?
C'est un contexte extrêmement compliqué. La situation économique de la France est chaotique. On a essayé toute une série de réformes économiques qui n'ont pas marché. Le ministre Calonne n'a pas réussi à imposer les modifications structurelles qu'il voulait imposer dans la société. Et nous sommes face à une société exsangue qui n'a plus d'argent, qui est au bord de la banqueroute, qui n'a plus d'argent à la fois pour fonctionner à l'intérieur, mais qui n'a plus non plus d'argent pour éventuellement se défendre en cas de conflit avec l'étranger. Nous sommes quand même dans une période où les conflits européens sont quand même courants et clairement sur l'échiquier politique, il y a des menaces de tension, notamment entre l'Angleterre et la France. Les pays voisins, justement ce qui ne s'appelle pas encore la Belgique à l'époque, et les Provinces-Unies sont en train de vivre des bouleversements politiques énormes. Et la solution qui est adoptée par les principaux ministres alors en place, c'est-à-dire le ministre Brienne et le chancelier de Lannion, qui n'est autre que le cousin de Malesherbes, vont décider d'augmenter des impôts, de recréer des impôts complémentaires pour refinancer les caisses de l'État. Les parlements constituant à l'époque un organe qui doit avaliser les lois, les impôts, qui doit voter, si vous voulez, sur toutes les propositions de loi, a refusé de voter ces nouveaux impôts. Réaction des ministres en passe, ça sera d'exiler les parlements à Troyes pour les éloigner du pouvoir. Alors, c'est un goût de déjà-vu, évidemment. Il est impossible de ne pas penser, quand on voit cette mesure, au fameux coup d'État du chancelier Maupeou en 1770. Nous ne sommes quand même pas si loin. Tout le monde a encore en mémoire ces éléments-là. Et la fronde parlementaire est assez importante. Elle va provoquer des émeutes un peu partout. Et c'est à ce moment-là que Malesherbes, qui est totalement opposé à ces mesures autoritaires relatives au Parlement, même si là aussi il y aurait sans doute nécessité à mitiger son rapport au Parlement, les parlements étant, comme pour Voltaire d'ailleurs, considérés par Malesherbes comme des organes extrêmement despotiques, mais qui constituent néanmoins un contre-pouvoir nécessaire, puisqu'il est le seul, à pouvoir limiter l'autorité absolue du roi. Malesherbes va donc mettre Louis XVI en garde contre les conséquences dramatiques que pourrait avoir son attentisme par rapport à cette situation qui est en train de pourrir. Il comprend très rapidement que, au-delà du mécontentement des parlements, c'est le mécontentement du peuple de Paris et de la France entière qui va s'exprimer. Et qu'au fond, le capital de sympathie dont vont jouir les parlements, et le Parlement de Paris en particulier à cette époque, n'est finalement qu'un épiphénomène du mécontentement général. Il va donc, dans ce texte, qui est un texte extrêmement émouvant, plus sans doute que le suivant qui est plus théorique,
technique, oui.
Plus technique, il va mettre en garde Louis XVI contre, l'expression est de lui, ces dangereux orages qui menacent la France et dont les conséquences seront funestes au règne du roi. Il n'imaginait pas à quel point ces paroles étaient prophétiques en juin 1787. Et dans ce mémoire qui est relativement court, il va passer en revue les éléments qui lui paraissent fondamentaux pour éviter une guerre civile, pour éviter une banqueroute, pour éviter que le pays n'implose. Il termine ce mémoire par une phrase que je trouve extrêmement forte, car j'y insiste encore ici, c'est véritablement en serviteur de l'État que Malesherbes veut agir. Certainement pas en tant que personnalité qui veut se faire valoir. Bien au contraire, ce n'est pas du tout populaire pour lui d'ainsi prendre le contre-pied de ministres principaux du roi. Il lui dira d'ailleurs, ne croyez pas que c'est pour ma propre gloire ni pour celle de mes héritiers que je prends ainsi la légèreté de vous adresser ce mémoire. Et il termine en lui disant, voilà, pour moi ces réformes sont nécessaires, je le paraphrase ici, si le roi accepte de les mettre en œuvre, ces réformes, eh bien il faut qu'on pense qu'elles viennent de lui, et s'il décide de les ignorer, il faut que jamais on ne sache qu'elles lui ont été proposées.
En effet, magnifique. Alors, quels sont les points forts de ce mémoire ? Il y a plusieurs choses qui sont frappantes. Entre autres, il part du constat qu'on est dans une nouvelle France. Il insiste beaucoup sur ce fait. Et je le cite, « Il faut que le roi songe que ce qui s'est passé dans d'autres siècles n'est plus applicable au siècle présent. » parce qu'il s'est répandu sur toute la surface de la Terre, ou du moins parmi toutes les nations qui se communiquent leurs sentiments par la lecture, un esprit d'indépendance inconnu à nos ancêtres. Depuis 40 ans, on ne cesse de discuter des droits respectifs des souverains et des peuples. Il n'est point de particulier qui n'examine sous de quelles conditions il est obligé à l'obéissance. L'esprit d'insurrection a passé d'Amérique dans les Pays-Bas catholiques. Il a bien moins de chemin à faire pour arriver des Pays-Bas dans les provinces de France. Donc la situation de la France ne peut se comparer à celle d'aucune autre époque de notre histoire.
Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une tentation dans les sphères du pouvoir. Imaginez justement, nous sommes toujours dans cette monarchie absolue de droit divin. D'ailleurs, c'est un terme que Malesherbes contestera lui-même, puisque pour lui, en héritier des Lumières, le souverain est le dépositaire du pouvoir et non son propriétaire. C'est extrêmement fort comme idée, hein, Diderot développe la même dans l'article Autorité politique de l'Encyclopédie. Ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'au fond, la France de Louis XIV, la France des grandes expansions, du Faust, la France de Versailles, bah, c'est plus la France actuelle. Pourquoi ? Parce que nous avons un paysage qui a changé, que c'est un pays qui est en train de s'urbaniser de plus en plus. C'est un pays qui connaît une évolution tant sur le plan économique que philosophique. Et dans l'extrait que vous avez lu, on le voit très bien. Malesherbes parle ici en homme des Lumières et surtout en partisan des philosophes. On retrouve les paroles du directeur de la librairie, là, hein, lorsqu'il explique que c'est par la lecture que cet esprit d'indépendance se communique. Malesherbes a très bien compris à la fois, un, le rôle de l'opinion publique, ça c'est considérable. Je pense que c'est sans doute Voltaire qui, avant tout le monde, avait compris comment on pouvait utiliser l'opinion publique et faire agir l'opinion pour faire avancer les choses. C'est un acquis, c'est une chose établie. L'opinion publique, c'est un pouvoir avec lequel il faut jouer désormais. Et puis surtout, nous sommes à une ère où la circulation de l'écrit a pris une place considérable. Il est évidemment bien placé pour le savoir. Et que clairement, on ne peut plus faire comme si de rien n'était, comme si les choses ne se savaient pas, comme si la France pouvait continuer à évoluer avec des données inchangées depuis des siècles. Pour lui, justement, cette monarchie absolue de droit divin ne peut pas subsister, elle doit devenir une monarchie constitutionnelle, vous en parliez tout à l'heure. Une monarchie constitutionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une monarchie, parce qu'il restera monarchiste jusqu'au bout, une monarchie qui est construite autour d'une constitution, cette constitution étant votée par l'ensemble des citoyens, représentée par des citoyens élus. Alors là, nous tombons évidemment dans un point névralgique et stratégique de l'argumentation de Malesherbes, qui se verra sans doute encore plus fort dans le second mémoire. C'est cette question des états généraux. Les états généraux que la France réclame à corps et à cri pendant cette période de crise et dont Malesherbes se méfie. Oh non, pas qu'il ne veut pas qu'il y ait d'états généraux, bien au contraire, il demande une assemblée nationale. Ce qu'il explique, c'est que ces états généraux dans l'ancienne forme, et c'est pour ça qu'on parle d'ancienne France et de nouvelle France, ne peut pas convenir, bien au contraire. La partition en ordre, le clergé, la noblesse, le tiers état, ne peut pas subsister. Il y a là, dit-il, une inégalité de fait, puisque le tiers-État constitue la plus grosse majorité du pays. On ne peut pas considérer qu'elle n'ait qu'une voix sur trois et que ses représentants soient moins entendus que les représentants des deux ordres qui sont des ordres privilégiés. Il veut donc qu'on modifie le système de représentation et il en appelle donc simplement à une assemblée nationale élue qui serait là en charge de voter une constitution sur laquelle s'appuierait la politique du roi de France. Et c'est ce qu'il va réclamer dans son second mémoire. Et nous voyons qu'au fond, ce que Malesherbes propose là correspondra aux éléments de la première révolution qui va donner une constitution.
La clairvoyance de Malesherbes est en effet étonnante. L'autre point, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est la prise de conscience de l'importance de l'opinion publique. Donc, dans cet état en quasi-banqueroute, c'est ce qui va arriver. Malesherbes insiste aussi énormément sur le besoin de faire des économies et que ce soit le roi qui montre l'exemple.
Absolument. Et là, justement, le parallèle qu'il établit avec Louis XIV est criant, car en effet, pour lui, si Louis XIV était le roi soleil et s'il avait besoin d'asseoir son pouvoir en affichant un luxe considérable qui était au fond une espèce de façade destinée à impressionner les autres puissances européennes. La puissance d'un État se mesurant à l'époque, dit-il, au faste de sa cour, nous n'en sommes plus là. Et la grandeur d'un roi ne se mesure pas au nombre de colifichets dépensés par les dames de la cour, ni par la magnificence des attelages. C'est d'ailleurs un élément qu'il va reprendre plusieurs fois. Il dit au roi, au fond, pourquoi ne pas vous déplacer en chaise de poste plutôt que de vous déplacer en carrosse
et... Oui, parce qu'il donne des exemples très précis, en effet, sur les dépenses à réduire, sur les économies à faire.
Oui, parce que pour lui, il y a une France coupée en deux. Et c'est en cela aussi que j'insistais sur l'actualité du débat. Je pense que dans cette période de mouvements sociaux que la France connaît aujourd'hui, on ne manquera pas de constater l'acuité de la réflexion de Malesherbes et sa pertinence. C'est qu'au fond, il y a une indécence à exposer un faste, un luxe, totalement démesuré, qui ne correspond à rien, alors que les trois quarts du pays se meurent dans une famine totale. Il donne d'autres exemples, hein. On vient de parler des chaises de poste ici, il parle aussi de la folie des restaurations de bâtiments, disant voilà, les gens vivent dans la misère et lorsque les émissaires des provinces arrivent à Paris, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des tonnes de travaux qui sont commencés à gauche et à droite, qui ne sont pas continués parce qu'on manque d'argent et qui finalement engloutissent l'argent de l'État alors qu'ils pourraient être utilisés à meilleur escient.
Donc ce premier mémoire est remis au roi en 1787.
Oui.
Rien ne change.
Non, on ne l'écoute pas. Cette fois encore, il le dit, le roi reçut ce mémoire avec cet air de bonté qui lui est familier.
Donc en mai 1788, Malesherbes va demander à démissionner.
Oui.
Va demander à rencontrer le roi.
Oui, on va mettre une certaine obstruction d'ailleurs à accorder à Malesherbes cette entrevue. Il faut savoir que Louis XVI n'est pas seul et là aussi c'est un élément qui mérite d'être souligné. Je pense que Malesherbes a une véritable affection pour Louis XVI. Et ce n'est pas une affection absurde ou non réfléchie d'un homme envers son roi. C'est simplement qu'il estime que ce jeune homme avait un potentiel énorme en arrivant au pouvoir, bien malgré lui. Et là on reviendra quand même sur l'accession au trône du dauphin qui n'était quand même pas du tout un choix délibéré. Pour lui, il est entouré de mauvais conseillers et c'est clair que le duo Lamoignon et Loménie constitue véritablement un barrage aux réformes qui sont proposées par Malesherbes. Donc très clairement, dans l'entourage royal, on n'avait pas vraiment envie qu'il soit écouté. Louis XVI lui-même, peut-être aurait-il obtempéré à cela, simplement c'est un faible. Ça, je crois que tous les historiens l'ont souligné, c'est un homme qui est indécis, qui tergiverse, qui fait un pas en avant, qui fait deux pas en arrière, qui hésite, qui attend aussi, qui attend énormément, qui laisse la vague passer, mais à force de laisser la vague passer, il a eu le tsunami qu'on a connu et qui a déferlé sur la France. Donc là, clairement, il demande une entrevue qu'il n'obtient pas, ou qu'il obtient finalement, mais de manière presque inutile désormais.
Et là, Louis XVI accepte sa démission.
Il accepte sa démission, mais il lui demande de la sursoir.
Sursoir, et un lit de justice va avoir lieu au mois d'août 1788. Nouvelle épreuve pour Malesherbes.
Nouvelle épreuve, car en effet, on lui dit gentiment, au fond, mon garçon, tu peux t'en aller, mais... Ne dis pas officiellement que tu pars, tu restes en fonction. Officiellement, vous ne serez démis de vos fonctions que dans quelques mois. Donc Malesherbes va mettre à profit ces mois pour se retirer dans la terre de Verneuil de sa sœur, Madame de Sénozan, pour rédiger le deuxième mémoire qu'on publie ici, qui est donc le mémoire sur la situation présente des affaires, qu'il remet au roi en juillet 1788. Et là, on ne manquera pas évidemment d'observer la concordance des dates. J'ai envie de dire qu'un an, jour pour jour, avant la prise de la Bastille, Malesherbes remettait ce mémoire au roi, qui n'en fait pas plus de cas que des précédents. Et Malesherbes, qui attend à ce moment-là le droit de pouvoir démissionner, va assister à une décision qui va véritablement le bouleverser. C'est cette tenue de ce lit de justice dont vous parlez. Alors un lit de justice, qu'est-ce que c'est ? C'est une séance extraordinaire par laquelle le roi passe au-delà des décisions, des organes de réflexion, si vous voulez, des parlements qui refusent de voter certaines lois. C'est donc un nouvel acte d'autorité qui est extrêmement malvenu à ce moment-là. Bon, Malesherbes reçoit alors l'autorisation de s'en aller. En réalité, c'est surtout le Loménie de Brienne qui se fait congédier et Malesherbes peut partir à ce moment-là et retourner à sa botanique.
Donc ce dernier mémoire remis au roi se compose de 3 chapitres. Quels sont-ils ?
Alors, ce sont des chapitres qu'il décrit par le menu dans l'avant-propos qui sert d'introduction au texte. Il s'agit pour lui à la fois de réfléchir à la description des problèmes qui se présentent au pays, et Dieu sait s'ils sont nombreux, de répondre par anticipation aux objections qu'on pourra lui faire, et puis de faire des propositions de réforme, une fois encore, qui ne s'éloignent d'ailleurs pas de celles qu'il a faites précédemment. Il y a des événements qui se sont produits, d'autres qui ne se sont pas produits dans ce qu'il avait prévu. Chaque fois, il reprend cela par le menu, il réinsiste sur l'importance des réformes qu'il propose. Et surtout, il met en garde le roi contre une contamination dangereuse. Vous en parliez tout à l'heure, hein, lorsqu'il parle de cet esprit d'indépendance qui peut passer très vite d'Amérique à la France. Malesherbes faisait évidemment là allusion à la guerre d'indépendance américaine, que la France avait d'ailleurs soutenue à l'époque, et qui a fait des émules, je vous le rappelais tout à l'heure, dans les pays du Nord, la Belgique, les provinces unies sont alors en train de connaître une véritable révolution. Également, quelques siècles auparavant, c'est l'Angleterre qui avait connu une révolution régicide, celle-là. Et on sera frappé d'ailleurs du parallèle que Malesherbes fait entre la destinée du roi d'Angleterre et celle du roi de France. Il terminera donc ce mémoire par la réflexion sur les exemples européens. Et cette notion d'Europe, elle est extrêmement présente dans son mémoire. Ce qui est étonnant finalement à une époque où l'Europe ne constituait pas, comme aujourd'hui, un ensemble cohérent politiquement. Il montre à Louis XVI que ses voisins ont parfois commis des erreurs et qu'il n'est pas utile de les imiter en tout point. Alors certes, on va lutter contre les lettres de cachet, on va refuser l'arbitraire de l'enfermement. Cela n'est pas pour autant qu'il faut opter pour le bill de l'habeas corpus des Anglais, qui n'est pas approprié à la situation française. Même chose pour l'indépendance des villes hollandaises. Il va montrer que, au fond, les États qui composent les provinces unies fonctionnent chacun avec un mode de fonctionnement différent et qu'on ne peut pas adapter la situation telle qu'elle à la France. Et que dès lors, la conclusion qui s'impose, c'est que on crie aux États généraux, la France réclame des États généraux, mais elle ne sait pas ce qu'elle réclame, dit-il. Elle veut des États généraux, mais en réalité, elle veut une Assemblée nationale élue. Et la seule solution pour la France de 1788, c'est de rompre avec l'attentisme dangereux qui se répand depuis des mois, de rompre avec le despotisme hérité d'un siècle révolu. Et là, malheureusement, le lit de justice qui allait suivre montrera évidemment qu'il n'a pas été entendu. Et surtout, qu'il faut désormais compter avec l'ensemble des citoyens et leur donner une voix représentative qui sera traduite par cette fameuse constitution.
Ce que vous appelez la conception laïcisée de la royauté.
Oui, car pour Malesherbes, il ne peut pas y avoir de lien entre justement l'Église et l'État. Ceci n'a rien à voir avec une option confessionnelle, mais il ne peut pas y avoir d'interférence entre un ordre religieux et des prises de position. Dans l'État ancien de la France, on a cette partition en ordre noblesse, clergé et tiers-État. Pour Malesherbes, chaque citoyen doit désormais avoir une voix. Et surtout, l'Église doit se borner à des décisions d'ordre spirituel sans pour autant se mêler du temporel.
Merci beaucoup Valérie André. On arrive au terme de notre émission. Grâce à vous, on a découvert un Malesherbes à travers ses mémoires, constant dans ses principes, soucieux de la chose publique et surtout de l'avenir de son pays. Vous pouvez rajouter quelques mots en guise de conclusion, si vous le souhaitez.
Je crois que vous avez bien résumé. La question de l'avenir du pays est quelque chose de fondamental pour lui. Il est effrayé à l'idée de voir ce pays qu'il aime sombrer ou dans l'anarchie, ou dans la débâcle, ou dans la banqueroute. Et c'est en cela qu'il manifeste sa conception du service de l'État. Pour lui, et ça c'est un point qu'on n'a pas eu l'occasion de développer, il y a une différence entre les aristocraties auxquelles il est opposé et la noblesse. Les aristocraties, c'est le fait que certains membres de communautés privilégiées qui fonctionnent avec un esprit de corps se liguent contre les autres pour faire valoir leurs privilèges. Alors que la vraie noblesse, selon lui, c'est de servir son pays sans faire du tout de concession à l'esprit de corps.
Merci infiniment Valérie André. J'invite nos auditeurs à lire Malesherbes à Louis XVI ou Les avertissements de Cassandre, publié aux éditions Talendier.